18h. Le bulletin de 18h. Jean-Mélène Betty.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 18h dont voici les titres. Fin d'intérim au PDCI RDA pour le professeur Copli Boni-Philippe. Il a passé la main ce mercredi à Tidiane-Thiam lors d'une cérémonie de passation de charge au siège du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a été mis fin à son contrat. Dans ce bulletin, vous aurez la réaction de Magloire Diop. Il est journaliste sportif. À l'international, nous irons au Sénégal pour avoir l'éclairage de Adama Sadio, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sur l'invalidation des candidatures de Karim Bouad et Ousmane Sonko à la présidentielle de février 2024. Voici pour l'essentiel. Vie des partis politiques. Après son élection à la présidence du PDCI RDA le 22 décembre dernier, à Yamoussoukro, Tidiane Thiam a pris officiellement fonction ce mercredi 24 janvier 2024 à la maison du parti à Abidjan-Cocody suite à la passation de charge avec le professeur Copli Boni-Philippe, le président honoraire du PDCI ayant assuré l'intérim. Il a demandé à tous les militants et militantes à œuvrer pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Écoutons le professeur Copli Boni-Philippe.
Le bout de la chaîne, cette chaîne que nous formons, c'est bien 2025. Il faut bien que notre équipe arrive à destination, à la place souhaitée. Oui, nous sommes courageux et nous savons qu'avec la détermination de tous, nous arriverons au bout de la chaîne. Je voudrais vous remercier tous d'être là, de considérer que quand on passe les témoins, on n'a pas fini. Et considérer que quand on a les témoins, on doit redoubler d'efforts. C'est pour ça que je voudrais que tous ne considèrent pas qu'ils partent du PDCI-RDA, même quand ils passent la main à d'autres. C'est un acte de renouvellement qui est bien connu et bien précis. Il faut que nous continuions à redoubler d'efforts. Il faut que nous continuions à nous donner des conseils. Ceux qui remettent le relais doivent être prêts à suivre de près ceux à qui remettent le relais. Que ceux qui reçoivent ce relais soient donc emplis non seulement d'humilité, mais de courage. C'est cela qui doit être l'œuvre de notre parti.
Après la réception et la signature des documents afférents au parti des mains du président honoraire, le nouveau président du PDCI RDA, qui s'est fixé pour objectif les élections de 2025, a dévoilé ses priorités. Le président Tidiane Thiam.
Il faut continuer à réorganiser le parti et se mettre en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir aux prochaines échéances électorales, notamment par la dynamisation des activités sur le terrain à travers un management plus proche du terrain, prenant en compte les spécificités de chaque zone et de toutes les zones géographiques du pays. L'attachement des Ivoiriens à notre parti s'est encore exprimé à la faveur de la semaine d'adhésion récemment organisée du 8 au 15 janvier que nous avons interrompu du fait de la CAN, qui a vu plus de 4000 nouveaux militants frappés à la porte du parti, dont plus de 70% ont moins de 50 ans. Il nous faut donc poursuivre l'œuvre de nos illustres prédécesseurs et continuer à faire du PDCI-RDA un parti uni, conquérant, capable de proposer aux Ivoiriens une offre porteuse d'espoir et prêt pour gouverner dès après les échéances électorales de 2025 dans une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Les grandes batailles se construisent dans l'union et la discipline. Nous allons dans cet esprit parcourir tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire pour porter haut et fort le message du PDCI-RDA, à savoir faire la politique autrement, en prenant sans cesse l'union des filles et des fils du pays dans leur diversité et leurs différences. Nous sommes le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous avons l'exigence de garder les bras grands ouverts et guidés par la tolérance et le dialogue chaque fois qu'il s'agit de l'avenir de notre pays.
Le président Tidiane Thiam est désormais le troisième président du PDCI-RDA après les ex-présidents Feu Félix Houphouët-Boigny et Feu Henri Conan-Bédié. Le président de l'Assemblée nationale annonce que, au menu des projets de loi à examiner par les députés durant la première session ordinaire 2024, figure celui relatif à un meilleur encadrement de la dette ivoirienne. C'était le lundi 22 janvier à l'ouverture de la première session ordinaire, ce que salue Praos Yao Séraphin, professeur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, joint par Francis Cassie.
l'encadrement de la dette s'inscrit dans une politique de prudence au niveau de non seulement la capacité d'endettement du pays, mais du risque de surendettement. Alors encadrer la dette, c'est essayer de regarder par rapport aux ressources actuelles et futures que nous pouvons avoir, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons au niveau de l'endettement. Donc c'est une sorte de contrôle que le président de l'Assemblée nationale et ses camarades députés veulent faire.
Une sorte de contrôle, donc ça veut donc dire que la Côte d'Ivoire s'endette trop?
Effectivement, c'est ça. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, un stock d'armes qui dépasse les 20 000 milliards, à mon humble avis, c'est un peu trop. Et donc du coup, le président Bictogo donne un signal fort au gouvernement, parce que c'est le travail de l'Assemblée nationale de veiller à ce que les choses se passent bien, de chercher à canaliser cette propension de notre pays à aller vers l'endettement au lieu de chercher les voies intérieures pour le financement du développement.
À l'instant, Praoya Osirafin, professeur à l'université Alassane Ouattara de Boaké, joint par Francis Cassi. Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, les oppositions comptant pour la dernière journée du groupe E se jouent actuellement au stade Laurent Poku de San Pedro avec la confrontation Mali-Namibie et au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo, l'opposition Afrique du Sud-Tunisie. Pour ces 45 premières minutes, le score reste vierge à 0 but partout sur les deux stades. Dans la poule F, on aura sous le coup de 20h les oppositions Maroc-Zambie à San Pedro et RDC-Tanzanie à Korogo. Et comme annoncé dans les titre, Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. En effet, dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football indique qu'il a mis fin au contrat du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis Gasset et de son adjoint Ghislain Printemps pour résultats insuffisants. L'ivoirien Herbès Faye, qui était l'un de ses adjoints, assurera l'intérim, précise l'instance dans ce communiqué. Comment réagit la presse sportive par rapport à cette décision de la FIFA? Suivons ici la réaction de Magloire Diop, journaliste et consultant sportif, joint par Linda Balier.
Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Je pense que après le parcours des éléphants à la CAN 2023 en phase de poule, une victoire et puis deux défaites vraiment cinglantes, c'était la moindre décision à prendre. C'est une décision sage de la part du comité exécutif de la FIFA. C'est celle même que j'avais souhaitée. Je pense que c'est la décision qu'il fallait prendre pour créer un choc psychologique dans le vestiaire des éléphants. En tout cas, il fallait vraiment faire quelque chose et le comité exécutif de la FIFA a pris ses responsabilités. Et en lieu et place, elle a préféré nommer Emers Faye comme intérimaire. Pour moi, c'est du même mot pareil. Emers Faye, c'est vrai qu'il avait qualité de sélectionneur adjoint, mais il y avait vraiment un flou total autour de son rôle véritable à côté de Gasset. Parce que pour moi, le fait que dans le communiqué, on mentionne le nom de Ghislain Printemps comme étant également limogé, donc je déduis que le véritable adjoint de Jean-Louis Gasset, c'était Ghislain Printemps et non Emers Faye, qui était dans l'encadrement technique, mais qui n'avait pas ce rôle d'adjoint-là. Et donc, c'est Emers Faye qui a été mis là. Bon, je pense que peut-être c'est pour assurer un peu la continuité du service, évacuer les affaires courantes, en attendant de trouver un véritable sélectionneur.
À l'instant, la réaction de Magloire Diop, journaliste et consultant sportif sur la démission du sélectionneur Jean-Louis Gasset. La campagne régionale de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, dénommée Carton Rouge, accentue sa communication, surtout avec la presse invitée pour des échanges avec les initiateurs. Selon les estimations de l'OMS, au niveau mondial, 35% des femmes indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. Les détails avec Mata Touré.
Sur les objectifs de 1 million de signatures visées depuis le lancement de Carton Rouge contre les violences basées sur le genre, 300 000 ont été collectées, majoritairement en Côte d'Ivoire. Il faut accélérer le mouvement. En 2022, 7 000 cas environ de VBG ont été rapportés et pris en charge, dont près de 79% perpétrés sur des enfants de moins de 18 ans. De janvier à septembre 2023, on en dénombre plus de 5 000. Nassene Batouré, ministre ivoirienne de la femme, de la famille et de l'enfant.
Les silencieux sont plus nombreux que ceux qui s'expriment. Avec le soutien de la presse et le battage médiatique, je pense que beaucoup vont s'exprimer.
Carton Rouge est une manifestation de solidarité entre les acteurs des pays dans les moyens et les méthodes. Une campagne qui va déboucher sur une feuille de route comprenant 10 engagements clés destinés à lutter contre ces VBG, à baptiser SAVE, c'est-à-dire sanctionner les actes de VBG et les pratiques équivalentes. Le système des Nations Unies accompagne déjà le projet et entend aller plus loin. La représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, Cécile Compaoré-Zungrana.
15 milliards de dollars qui devrait être mobilisé pour l'élimination totale des violences basées sur le genre à l'horizon 2030 et mobilisé auprès d'une diversité de partenaires. Il y a le budget de l'État, le budget des partenaires comme ceux du système des Nations Unies, du secteur privé, des autorités et locales.
Pour rappel, la déclaration finale d'Abidjan adoptée en décembre dernier a défini en 10 points l'engagement de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Sierra Leone pour la dissémination de cartons rouges dans leurs pays respectifs.
Hors de nos frontières présidentielles du 25 février 2024 au Sénégal, le Conseil constitutionnel de ce pays a publié le samedi 20 janvier dernier la liste définitive des 20 candidats à la présidentielle, une liste sur laquelle ne figurent pas deux opposants notables, à savoir Ousmane Sonko, actuellement en prison, et Karim Wad, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wad. Quelle lecture faire de cette décision du Conseil constitutionnel? Suivons l'éclairage de Adama Sadio, il est enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été joint par Jean-Claude Koumbi.
Ce qu'il y a à noter, c'est que le Conseil constitutionnel a publié sa liste définitive, une liste où il y a deux candidats manquants qui sont des candidats qui font l'objet de beaucoup d'attention. C'est la candidature de Karim Wad et la candidature d'Ousmane Sonko. Et sinon aussi, il est noté dans la liste que Bassirou Diomaye Faye ainsi que d'autres personnes qui peuvent aujourd'hui représenter, en tout cas au niveau de l'opinion, le plan B ou de l'aile de Ousmane Sonko sont retenus sur la liste officielle. Et malgré également les recours du camp du pouvoir, donc on peut dire que le Conseil constitutionnel a coupé la porte en deux. Autant il a rejeté la candidature de Sonko, mais il a permis également à cette opinion-là, représentative de l'opposition sénégalaise, soit représentée donc, dans la course à la présidentielle de 2024.
Pour le cas Karim Wad, par exemple, déjà au niveau du parrainage, c'était OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'argument du Conseil constitutionnel?
Après la publication de la liste provisoire, tous les candidats retenus ont le droit de faire une réclamation en s'opposant à la candidature de notre candidat. Donc c'est ce que l'un des candidats de l'opposition du Nord-Ottawa, Olsen Sall, qui était avec le régime de Macky Sall, donc c'est ce qu'il a fait, selon laquelle Karim Wad ne doit pas être candidat parce qu'il n'est pas de nationalité exclusivement sénégalaise.
À l'instant, Adama Sadio, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voici qui met un point final à cette édition, mais avant le rappel des titres. Fin d'intérim au PDCI RDA pour le professeur Kopli Boni-Philippe. Il a passé la main ce mercredi à Tidiane Thiam lors d'une cérémonie de passation de charge au siège du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gassé n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, vous avez eu la réaction de Magloire Diop. Il est journaliste sportif. Et puis à l'international, nous avons fait escale au Sénégal pour avoir l'éclairage de Adama Sadio, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sur l'invalidation des candidatures de Karim Wad et Ousmane Sonko à la présidentielle de février 2024. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite à des programmes sur votre radio.
De la CAN. Suivez en direct les matchs des éléphants et d'autres grands